Je voulais vous parler d'un sujet et d'un côté, je ne voulais pas vous en parler. Parce que ce matin, je voulais vous parler de la pornographie. C'est un sujet qu'il faut prendre avec une certaine délicatesse. C'est un sujet qui gêne et qui devrait nous gêner. Mais néanmoins, comme c'est un problème, c'est d'actualité, c'est un problème de la société, et c'est malheureusement aussi un problème pour de nombreux chrétiens. Nous devons en parler dans le cadre de ces discussions. Donc je vous propose une réflexion sur le chrétien et la pornographie. Je vais vous présenter un petit peu ce que D'accord, ça circule. Donc, vous allez pouvoir suivre avec moi, grosso modo, mon schéma de cette réflexion. De temps en temps, il y aura quelques cases à remplir, de manière à ce que vous ne vous endormiez pas. Quelques blancs, ici et là. Donc, voilà. C'est un problème de société. Il arrive même que des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des missionnaires, tombent dans le péché. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou non, mais ça arrive. Et que des serviteurs de Dieu aient à quitter le ministère à cause de l'emprise de la pornographie dans leur vie. Bien. Alors, une définition simple, écoutez, la pornographie, c'est la représentation, voilà le mot qui vous faut, représentation visuelle ou écrite de sujets ou de détails obscènes, la représentation de sujets ou de détails obscènes. On notera qu'aujourd'hui, l'opinion publique, comme les médias et les mœurs, parfois, essaye d'opérer une distinction entre l'érotisme et la pornographie. Comme si l'érotisme était quelque chose de plus artistique que la pornographie. Bon, pour le chrétien, on n'opérera pas de distinction, hein, on fera l'amalgame de tout ce qui est un affront à la sainteté de Dieu. Donc je ne ferai pas de distinction entre ces choses-là, on fera l'amalgame de tout ce qui est immoral. Hein. On n'entrera pas dans ce discours-là, qui est de dire, bon, la pornographie c'est vraiment mauvais, bon, l'érotisme c'est moins mauvais. Nous ne tomberons pas dans ce piège-là. Alors, pourquoi est-ce un problème accru aujourd'hui? Parce qu'autrefois, la pornographie était le vice du riche. Elle existe depuis l'Antiquité, ce n'est pas un phénomène nouveau en fait, hein. Ça existe depuis longtemps. Mais ça se cantonnait à une certaine classe de la population. Mais aujourd'hui, la pornographie, l'érotisme et tout ce qui s'entend là dans cette allégorie, c'est démocratique. Et c'est disponible et visible partout. On ne peut pratiquement pas y échapper, en particulier dans un pays occidental comme la France. Vraiment difficile de se réfugier pour ne pas avoir accès à cette chose-là. Alors elle est présente bien sûr à la télévision, au cinéma. Elle est présente dans les bandes dessinées. Elle est présente à un certain degré dans la publicité. Elle est présente dans des romans qui sont maintenant devenus grand public. Auparavant, c'était des choses un peu cachées. Maintenant, il y a des auteurs très célèbres qui sont des personnages célèbres, dont on ne citera pas les noms, mais ce sont des gens très très connus et qui écrivent donc des romans pornographiques. Une grande distribution maintenant. Et puis, la nouvelle donne, comme on le verra tout à l'heure, et bien maintenant, la pornographie est disponible sur Internet. Ça, c'est la nouvelle donne. Donc, c'est un problème parce que c'est quelque chose qui nous environne et qui est partout. On ne peut pas... Moi, j'habite au centre-ville de la ville d'Angers. Il faut que quand j'emmène mes enfants à l'école, eh bien, on est parfois amené à faire quelques petits détours parce qu'en face de chez nous, il y a le point presse, le bureau de tabac. Et c'est parfois franchement gênant. Donc, nous sommes submergés par ce phénomène. Alors, la Bible parle-t-elle de la pornographie, c'est le grand 2, indirectement, oui. Il est vrai qu'il n'y a pas de verset qui parle de la pornographie dans son état pur, mais indirectement, la Bible, comme tout autre sujet immoral, la Bible s'adresse à ce genre de phénomène. Alors, nous avons quelques versets, j'ai dû faire un tri, Et nous avons quelques versets ici clés, je pense, qui pourraient nous éclairer. Le verset de base, c'est dans Lévitique, chapitre 19, verset 2. « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. » Dans Job, nous lisons, Job qui est peut-être un contemporain de Abraham, donc c'est très très beau, peut-être le premier livre de la Bible en fait, hein, en termes de chronologie. Mais à l'époque d'Abraham, Job avait déjà compris qu'il ne fallait pas regarder les femmes comme un objet sexuel. C'est intéressant, hein. Il n'y a pas besoin de la loi pour l'instant, Job n'a pas la loi, rien de tout ça, mais déjà, à ce stade-là, il est clair, pour quelqu'un qui croit en Dieu, j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Plus tard, le Seigneur donc éclaircira un petit peu ce propos dans Matthieu 5, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, que ce soit dans la réalité ou au moyen d'une revue ou d'une cassette, évidemment, eh bien, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Colossiens chapitre 3, « Faites donc mourir ce qui est dans vos membres terrestres, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs. » Et là, ce qu'il faut remarquer, c'est l'ampleur des termes. Le fait qu'il y a plusieurs termes employés pour en fait couvrir toute l'étendue de ce qui pourrait être plus ou moins immoral. Hein, là, l'apôtre Paul ne mâche pas ses mots. 1 Thessaloniciens, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche, car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Et Pierre ajoutera aussi, il reprendra le propos de Lévitique 19, soyez saints dans toute votre conduite. Je crois que c'est bien clair. Le chrétien n'a pas à s'immiscer, à s'engager dans le contenu pornographique. Quelques termes clés. Il y a le terme qui est traduit en français, la débauche. Hein, en grec, c'est le terme pornéa. Nous aurons bien sûr notre mot pornographie. Ce terme se trouve assez fréquemment dans le Nouveau Testament. 21 fois, il sera utilisé par Paul. Et 15 de ces fois, on le retrouvera dans les livres de 1 et 2 Corinthiens. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, il y avait des problèmes graves dans ce domaine. Et puis 19 fois aussi dans l'Apocalypse, ce qui nous indique que, à la fin des temps, hein, dans cette période mouvementée, l'immoralité, la pornographie, toutes ces choses-là, joueront encore un rôle apparemment assez prédominant. Et donc ce terme au départ signifiait, terme au départ assez restreint, avoir des relations avec une prostituée, mais assez rapidement, il en est venu à signifier la sexualité illicite, hein, donc en dehors du mariage. Et donc dans les textes bibliques, justement, ce terme ne signifie non pas simplement ne pas avoir des relations sexuelles avec des prostituées, comme au départ, mais tout ce qui est un affront donc à la sainteté de Dieu, les relations extramaritales, l'homosexualité, etc., etc., etc. Et bien entendu, on peut y inclure la pornographie. Il y a un autre terme aussi, qui est le terme que nous traduisons en français, impureté, qui est un terme un peu plus général, un terme un peu moins souvent, mais qui regroupe encore une fois tout ce qui n'est pas pur aux yeux de Dieu. Et peut-être que là, on peut caser dans ce mot-là la sensualité, c'est le mot qu'il vous faut remplir, la sensualité qui imprègne les médias et les mœurs, entre plutôt dans cette catégorie-là, hein, d'impureté. C'est peut-être pas de la pornographie, dans son état pur, hein, au niveau technique, mais c'est la sensualité. Et c'est donc l'impureté. La sensualité. Alors, je voulais parler pendant quelques instants de l'attrait de la pornographie. Parce que je me suis rendu compte que, en particulier pour des femmes, c'est une énigme. Je pense en particulier pour les femmes chrétiennes peuvent se demander, mais comment un homme chrétien qui est né de nouveau peut-il même être tenté par cette chose? Et je crois qu'il est important non seulement pour les femmes, mais pour chacun d'entre nous de comprendre pourquoi la pornographie fait tomber des chrétiens. Quel est l'attrait en fait? C'est un mauvais attrait, mais quel est l'attrait? Je propose quatre raisons, il y en a certainement d'autres. à cet engouement pour la représentation de la sexualité. Quel est l'attrait en fait, hein? Eh bien, je pense que c'est, dans un premier temps, pour satisfaire la curiosité. L'homme, en particulier l'homme, est de nature attiré par la vue, alors que la femme a plus tendance à être attirée par les émotions. L'homme est attiré par la vue, il est plus attiré par la représentation de l'acte sexuel que ne l'est la femme. C'est un fait indéniable. Alors l'intérêt pour la sexualité n'est pas bien sûr anormal, mais Dieu a prévu que cet intérêt trouve sa solution, son explication dans le cadre du mariage.
Amen.
Et pour celui qui n'est pas marié ou qui ne l'est pas encore, bien, le Seigneur a prévu que pour ce chrétien-là, eh bien, il y ait la grâce de Dieu, il y ait l'aide du Saint-Esprit, il y ait l'encouragement des autres chrétiens qui l'entourent, qui viennent autour de lui, qui viennent autour d'elle, pour l'aider à ne pas tomber dans ce piège qui est de la pornographie. La sexualité nous intéresse, mais nous ne devons pas trouver notre intérêt, les réponses à notre intérêt dans la pornographie. Deuxième cas de figure, deuxième raison, je pense que, et ça a été démontré, visionner de la pornographie permet de ressentir des sensations fortes et d'assouvir des désirs sexuels sans conséquences graves. On va voir dans un instant, en fait, c'est un mythe, ce que je vais vous dire là, mais c'est un peu l'opinion. C'est que on peut ressentir des sensations fortes et ça ne coûte rien. Il n'y a pas de risque de contamination. On ne fera pas de sida ou de maladie vénérienne en consultant un ouvrage pornographique, c'est vrai. Il y a une autre sorte de contamination, ça on le verra plus tard. Il n'y a pas d'infidélité au niveau physique dans un couple. Hein. Un homme marié qui consulte un ouvrage ou qui regarde une cassette vidéo pornographique se dit, mais je suis encore le mari de ma femme, je ne l'ai pas trompé physiquement. C'est vrai que je ne l'ai pas trompé physiquement. Dans toutes les autres catégories, il l'a trompé. Mais je crois qu'il y a cette espèce de justification chez la personne qui dit, ben voilà, ce n'est pas grave. Il y a une sorte de justification, il n'y a pas de conséquences graves à mon engagement dans la pornographie. Troisième cas de figure, troisième raison. Pour certains, pour des chrétiens comme pour des non-chrétiens, c'est le numéro 3. Visionner de la pornographie est pour certains le moyen de décompresser, d'évacuer leur frustration. C'est un mauvais moyen. C'est un moyen pour certains de décompresser, de faire un peu abstraction de la réalité. Moi, je vois ça comme une espèce de boulimie des yeux. C'est ça la pornographie. On consomme, on ingurgite, c'est une sorte de boulimie des yeux. Quand ça va mal, hein, quand on veut décompresser, eh bien le chrétien ou le non-chrétien, eh bien, consomme pour décompresser. C'est terrible. Tout comme de nombreuses femmes sont affectées, pour les femmes qui sont affectées par la boulimie, eh bien, la pornographie, c'est un peu la boulimie des yeux. On ingurgite. Et puis, dernière cause, je dirais, de cet attrait de la pornographie, et celle-là, elle est plus profonde, c'est que l'attirance vers la pornographie est souvent le symptôme d'un malaise plus général. Il y a un problème d'ordre spirituel, bien sûr. Il y a un problème d'ordre spirituel. Évidemment, dans le cas du chrétien qui s'engage dans cet engrenage, il y a un problème d'ordre spirituel. De même, le non-converti qui s'enfonce dans ce marasme, eh bien lui aussi cherche quelque chose. Il cherche à combler le vide que seul Dieu peut comprendre. Donc, il est évident que ce n'est pas simplement un problème sexuel ou affectif ou psychologique, mais la racine, c'est un problème spirituel. D'accord. Alors, comme nous disions, C'est un mythe que de croire qu'il n'y a pas de conséquences. Il y a bien sûr de nombreux effets nuisibles, des conséquences graves à l'intérêt au plan pornographique et à l'ébauche en général. Il y a toujours des conséquences. Alors, cette liste n'est pas forcément dans l'ordre. Mais je noterai tout d'abord que cela cause une entrave à la communion avec Dieu. Ça va de soi, c'est évident. Mais dans un premier temps, la pornographie, toute sensualité, hein, en dehors des paramètres du mariage, bien sûr, est une entrave à la communion avec Dieu. Le Saint-Esprit est attristé par le comportement de ces chrétiens. Comme nous lisons dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, nous lisons que, effectivement, le Saint-Esprit peut être touché, puisqu'il y a des émotions, et donc être attristé. Deuxièmement, et cela en découle, le ministère et le témoignage en seront forcément affectés. Évidemment. Imaginez un pasteur qui, malheureusement, est tombé dans cet engrenage et qui essaye de parler, de venir à ce genre de réunion et de parler de la pureté de Dieu. C'est quasi impossible. Les paroles flottent en l'air, mais il n'a pas de puissance. Donc le ministère et le témoignage en seront forcément affectés, que ce soit celui d'un prédicateur ou d'un chrétien. Il y aura des conséquences. Je pense, vous lisez avec moi, ce que Paul a dit à Timothée, auquel il adresse d'ailleurs plusieurs avertissements. On lui dira donc dans 1 Timothée chapitre 2, la recommandation que je t'adresse, c'est que tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Et cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc la bonne conscience. Le ministère et le témoignage qui seront d'office. Troisième effet, c'est bien sûr l'insatisfaction personnelle, la culpabilité. Nous parlons donc du croyant, hein, du chrétien, qui bien sûr se sentira très mal à l'aise. Le péché va l'affecter et il y aura donc cette culpabilité intérieure qui va le ronger. Ça, c'est un effet indéniable. Quatrièmement, il y a des problèmes de couple. Pourquoi ? Parce que le conjoint ne peut jamais rivaliser avec les images retouchées, relookées de la pornographie. C'est pas possible. C'est un milieu artificiel. Et le conjoint ne pourra jamais rivaliser. Alors forcément, il n'y aura pas l'attente désirée de la part de celui qui est plongé, ou de celle qui est plongé dans la pornographie. Donc ça crée toutes sortes de problèmes au niveau du couple. Il y a la possibilité, bien sûr, accrue d'adultère. Et puis on pourrait dire possibilité, problème de couple, mais aussi problème, au niveau de la famille. Parce que malheureusement, beaucoup d'enfants sont initiés à la pornographie en tombant sur une revue que le père avait cachée quelque part. On estime, le pourcentage est en fait assez élevé, de cette première introduction à la pornographie chez un membre de la famille, un grand-père, un oncle, quelque part, et on tombe là-dessus. Et donc ça a des conséquences très très graves, extrêmement graves. Problème de couple et de famille. Cinquièmement, et ça aussi c'est grave, c'est que les membres de l'autre sexe apparaissent de plus en plus comme des objets sexuels. Ça, c'est grave. Pour la famille de Dieu, c'est extrêmement grave. Il y a donc des problèmes de relation avec les membres de l'autre sexe. Dans 1 Timothée, chapitre 5, nous lisons, vous allez se laisser devant vous, exhorte les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Difficile de considérer les femmes jeunes comme des sœurs et les femmes plus âgées comme des mères quand l'esprit baigne dans l'érotisme, la pornographie et la sensualité. Très difficile, n'est-ce pas? Et donc les rouages même de l'Église sont menacés quand, en particulier, les leaders spirituels s'engagent dans ce flux. Donc, difficulté de relation avec les membres de l'autre sexe. Ensuite, il y a ce qu'on pourrait appeler l'impression d'image immorale sur l'esprit. Et ça, c'est un phénomène assez particulier qui fait que quand quelque chose... quand il y a une excitation, pour une raison ou une autre, il y a l'image en question se grave dans notre esprit. Ce qui fait que, et vous en avez certainement fait l'expérience, malheureusement, des images qu'on aurait pu voir il y a des dizaines d'années, eh bien malheureusement, ces images, de temps en temps, reviennent encore à l'esprit. Des images immorales. Et ça, c'est terrible. Seulement, on pouvait avoir la même faculté de mémoire pour les Écritures. Eh bien, c'est ces images-là qui reviennent à l'esprit. Et donc, quand on regarde quelque chose, je pense que c'est innocent, mais c'est pas du tout innocent. Et ça aura des conséquences à des années à venir, gravées sur la mémoire. Et j'ajouterai également que le rôle de la pornographie a été trouvé comme déterminant dans la pensée et l'acte de certains serial killers. Ça, on n'en entend pas parler, mais cela a été montré comme déterminant au crime chez de grands criminels. Et je pense qu'il est très regrettable que ce fléau n'ait pas montré du doigt, en particulier en France, en Europe. Mais moi, je me demande, il serait très intéressant de connaître le rôle potentiel qu'a pu jouer la pornographie chez un Francis Holm, un Patrice Allègre ou un Guy Georges. Je me pose des questions, mais je pense que c'est fort probable que ces gens-là ont eu affaire à de la pornographie violente, dure, peut-être que leurs actes sont passés par ce cap-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a une impression. Et puis, enfin, il y a ce qu'on appelle, c'est un comportement accro, une espèce de cercle vicieux de la pornographie. Voici le comportement typique qu'on peut constater. Ce n'est pas toujours comme ça, mais dans bien des cas, cela suit ce cours. Il y a une première phase où on passe de la curiosité, on passe rapidement à la dépendance. Au départ, c'est juste de la curiosité, mais très rapidement, on passe à la dépendance. C'est une passion dévorante. La dépendance. Ça, c'est la première phase. Où les images sensuelles deviennent comme une drogue. En fait, c'est ça. Ça devient une drogue de l'esprit. On a du mal à s'en passer. Mais ensuite, on passe à une deuxième phase. C'est l'intensification. Enfin, c'est plus la dépendance, mais c'est l'intensification. Et c'est terrible, mais on a besoin d'images plus choquantes. Ce qui avant était excitant, ne procure plus de sentiments, ne procure plus d'excitation. Et maintenant, il faut quelque chose de plus grave, de plus choquant, plus graphique. C'est la phase d'intensification. Puis, la troisième phase, c'est la désensibilisation, voilà. Super bon scrap.
Ils sont réveillés, hein.
Voilà. Notez bien ça. Désensibilisation. Et là, vous l'avez compris. C'est que les images pornographiques les plus osées, les plus choquantes même, ne génèrent pratiquement plus aucun attrait. Et une espèce de frustration chez la personne qui recherche en vain de nouvelles sensations fortes. Ce qui fait que, dans certains cas, et c'est la quatrième phase, il y a un passage à l'acte. Un passage à l'acte où l'individu tente de mettre en pratique ce qu'il a contemplé.
des choses sur lesquelles il a longtemps réfléchi, eh bien, il va passer à l'acte. Et voilà en partie une des raisons, mais je pense que c'est une des raisons pour laquelle nous avons un phénomène accru actuellement de pédophilie. C'est que les images sont beaucoup plus disponibles à l'heure actuelle qu'elles l'avaient été auparavant. Et quand on se submerge de ces images, il y a un beau jour, dans une majorité des cas, et bien écoutez, on passe à l'acte. Et c'est ce qui se passe dans certains cas de pédophilie. C'est une des explications, il y en a certainement beaucoup d'autres. En tout cas, ce passage à l'acte est démontré dans de nombreux cas. Donc d'une simple curiosité, au départ, un homme, peut-être même un homme chrétien, c'est possible, c'est arrivé. Ou une femme, c'est aussi arrivé. Elle peut en venir à commettre des actes absolument abominables. Au départ, ce n'était que quelques regards, ce n'était qu'une la vision un peu indiscriminée de la télé. Et puis petit à petit, on tombe dans cet engrenage. Bien. Alors, évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment se protéger. Nous ne voulons pas, bien sûr, tomber dans cet engrenage. Comment se protéger de la pornographie et de la moralité en général. Donc, je vous suggère quelques principes de base. Il y en a certainement d'autres. Ce sont des principes de base pour nous, derrière lesquels nous voulons nous réfugier, qui vont nous servir de protection. Je pense également que ces principes de base peuvent servir à ceux qui sont déjà compromis, hein, à un chrétien en particulier qui est déjà pris dans l'engrenage et qui ne sait pas s'en sortir et qui est au désespoir. Hein, c'est fort possible même dans ce petit groupe qui est là. Ne désespérez pas, car il y a des solutions. Le Seigneur les offre. Donc voici ces quelques principes de base pour nous aider ceux qui veulent se protéger, voire même aider quelqu'un qui est déjà dépendant, qui est déjà accro à ce fléau. Tout d'abord, là encore, il n'y a pas d'ordre particulier, d'importance, ils sont tous importants, mais il nous faut d'abord être conscient de notre appartenance. Il nous faut être conscient dans un premier temps de notre appartenance. À qui appartenons-nous? Qui est notre maître? Notre corps, nos yeux, nos pensées appartiennent au Seigneur. Et parfois, peut-être que quand quelqu'un se convertit à Jésus, nous attendons un peu trop longtemps, je crois qu'immédiatement il faut enseigner à ces nouveaux convertis qu'on est en train de former, très rapidement, tu es passé d'un maître à l'autre. Mm-hmm. Et maintenant tu as un autre maître, mais c'est bien un maître. Et tu as changé d'appartenance, et tu appartiens à quelqu'un, et tu ne peux pas faire n'importe quoi. Nous lisons par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 6, hein, c'est ce verset tellement connu. Écoutez, votre corps est le temple du Saint-Esprit, et vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous avez été racheté. Alors, quelle que soit la tentation, il faut se dire, mais moi je n'appartiens ni à moi-même, ni à Satan, hein, c'est fini ça, mais maintenant j'appartiens bien au Seigneur. Et je n'ai pas le droit de faire simplement selon mes désirs, selon mes pulsions. Je n'en ai pas le droit, parce que j'appartiens à un autre. Ça, il faut l'enseigner dès le départ, et puis, évidemment, continuer de le mettre en pratique. Mais il y a un problème, parfois, pour le chrétien impliqué là-dedans, au niveau de son appartenance. Il a oublié. Ce n'est pas qu'il a rejeté le Seigneur. Ce n'est pas qu'il déteste le Seigneur. C'est qu'il oublie que le Seigneur est là. Et voilà, on rejoint en fait le message précédent, hein. Voilà, on rejoint la crainte de l'éternel, quand on oublie notre appartenance. Deuxièmement, il faut non seulement être conscient de notre appartenance, mais aussi de notre condition. Notre condition, c'est celle d'être mort au péché et vivant à Jésus-Christ. Nous devons être conscients de notre condition. Nous sommes morts par rapport au péché. Même si toutes nos sensations, si toutes nos émotions nous crient, c'est faux, tu es vivant par rapport au péché, la Bible nous dit, considérez-vous comme mort au péché. Si tout en nous crie, tu es vivant au péché, eh bien, la Bible, la parole de Dieu, parle, avons de sa voix persuasive, vous êtes mort par rapport au péché. Et nous devons nous le dire, et nous devons le croire. Comme nous disons dans Romains chapitre 6, le grand chapitre de la sanctification, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Il n'est pas dit, ressentez cette mort au péché. Il est dit, regardez-vous, considérez-vous comme mort au péché. Considérez-vous comme mort au péché. Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre cœur mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Donc souvent, quand le chrétien est impliqué, il y a un problème au niveau de sa compréhension, de sa condition en tant que chrétien. Le troisième point, je pense que ça c'est bon pour chaque cas de figure, hein, pour toute la vie, c'est de maintenir une bonne dose d'humilité par la prière. Maintenir par la prière une bonne dose d'humilité. Quelqu'un a dit, celui qui se croit trop fort pour ne pas tomber dans le péché de l'immoralité est plus puissant que Samson, plus spirituel que David, et plus sage que Salomon. Donc, ça me regroupe tout ça. Plus puissant que Samson, plus spirituel que David, plus sage que Salomon. La réalité, c'est que n'importe qui peut tomber. Mais vraiment, n'importe qui peut tomber, peut devenir dépendant de la pornographie. Vraiment, il n'y a plus de surprise à ce sujet. C'est malheureux à dire, mais on peut tous y passer. Il faut être humble à ce sujet et se dire, ne serait-ce que pour la grâce de Dieu, moi je pourrais bien être dans cette situation. Donc je pense qu'il faut rester extrêmement humble et dire, et dans la prière, dire au Seigneur, aide-moi dans ce domaine. Parce qu'il n'y a plus de surprise. Je pense à plusieurs personnes pour lesquelles j'avais beaucoup d'estime et que j'estime encore en tant que frère, il faut le dire aussi, mais qui se sont disqualifiés. Et dans certains cas, on se serait dit, mais jamais cette personne. Une autre personne, oui. Hein, moi-même, peut-être, mais pas cette personne-là. Et c'est cette personne-là qui est tombée. Je pense, j'ai des ouvrages dans ma bibliothèque écrit d'hommes convertis, hein, de savants, et qui sont tombés dans le péché. Et leurs livres sont là, une espèce de témoignage. Donc tout le monde peut succomber. Je pense à ce conférencier chrétien à qui on avait demandé, malheureusement, on lui avait demandé un jour, dans quel domaine pensez-vous être fort? Dans quel domaine mais Satan ne pourra-t-il jamais vous affecter? Et après réflexion, il aurait mieux de rien dire, mais après réflexion, il a dit, mais c'est dans le domaine de la famille que je crois être vraiment le plus fort, dans le domaine de mon couple. Et il n'a fallu qu'environ un an pour qu'il retombe dans le péché. Donc encore une fois, il vaut mieux rester humble et dépendant sur le Seigneur. Hein, parce que les exemples ne manquent pas. Quatrièmement, j'espère que je ne vous effraie pas par ces exemples, c'est terrible, mais ça nous force à nous réfugier derrière le Seigneur. Et à être vraiment humble devant lui. C'est bien sûr de méditer la parole, en particulier bien sûr les versets, comme les versets que nous venons de lire, les versets qui se réfèrent à la pureté. Méditer fréquemment la parole de Dieu en veillant scrupuleusement sur nos pensées. Quand nous vacillons dans nos pensées, nous réfugier dans les versets, dans des bribes de versets, des parcelles de la parole de Dieu. Moi, ce qui me revient souvent à l'esprit, j'essaie souvent de remplacer, je pense à ce verset dans Habacuc, chapitre 1, verset 13, pas un livre très connu, mais verset 13, il est dit, en parlant du Seigneur, tes yeux sont trop quoi? Purs pour même regarder le mal. Et j'ai souvent cette pensée-là en tête, ça mène l'autre verset aussi. Mais bien sûr, il faut connaître la parole, il faut connaître le contenu de la parole, pour pouvoir la méditer, se remémorer dans la tentation de ces versets. Bien sûr, numéro 5, il faut déterminer de se détourner des images sensuelles ou pornographiques. Il faut se détourner et avoir pris la décision à l'avance. Nos yeux constituent en quelque sorte notre première ligne de défense. Et quand on protège ses yeux, On a fait un grand pas vers la pureté. Et bien évidemment, en cas d'échec, hein, quand on a regardé 2, 3, 4, 5 secondes de plus qu'il ne le fallait, eh bien on se repent immédiatement, on reprend des mesures rigoureuses pour ne pas retomber dans ce péché. On ne peut pas empêcher, dans notre société, il est impossible de vivre de façon borgne. Hein. On va certainement voir des choses. Mais le problème, c'est quand on est content. Une seconde, deux secondes, ça va, et on se détourne. Voilà. Et on le fait constamment. Ce sera le combat de toute une vie. Hein. Oui. Ce sera notre combat, en particulier pour nous les hommes. Alors, j'ai un concept, je voulais partager un concept avec vous, qui m'a paru intéressant. L'organisation, l'organisme pour la lutte contre l'alcoolisme, alcoolique anonyme, hein, que vous connaissez tous, développe un concept, ils appellent ça siroter. Et ça, c'est quand l'ancien alcoolique ne consomme pas vraiment de l'alcool, hein, il ne boit pas beaucoup, mais il sirote. Quelques gorgées ici et là. C'est tout ce qu'il fait. Mais le problème, c'est que à force de siroter, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, après il boit une gorgée, puis il boit tout le verre, puis après toute la bouteille, et il retombe dans son problème d'avant.
En cirrhose. On sirote plus, on sirote.
Voilà, exactement. Et donc, il existe aussi ce phénomène de siroter des images sensuelles. Hein, c'est quand on regarde par exemple la télévision. Et alors, on regarde peut-être une émission, ce n'est peut-être une émission de variété. C'est quelque chose qui, a priori, paraît innocent. Mais les images sensuelles qui déferlent contribuent à abaisser notre résistance. Hein. C'est peut-être de la musique, une musique sensuelle. Et, par exemple, des clips vidéo. Hein. Je n'ai pas une grande expérience dans ce domaine-là, mais ce que j'ai pu voir, c'est que des clips vidéo qui sont donc censés représenter la musique, eh bien, représentent la plupart du temps une forte sensualité. Hein, c'est ce que j'ai pu remarquer moi. Alors, donc ça c'est dangereux. C'est dangereux de siroter, de consommer des images qui paraissent inoffensives, mais qui petit à petit baissent notre résistance. Alors, donc, il faut faire attention. Sixième point, dépêche un petit peu, éviter les situations qui pourraient mener à la tentation. Éviter les situations, bien sûr, qui peuvent mener à la tentation. Et là, ça varie en fonction de chacun. Chacun a des tentations diverses, différentes. Il n'y a pas de paramètres. Chacun connaît les circonstances, les endroits, les discussions même, qui pourraient le compromettre. Alors, c'est à chacun de voir, mais faut-il éviter de regarder la télévision seul le soir? Faut-il renoncer à certaines musiques sensuelles? Faut-il renoncer à fréquenter certains endroits? Je ne sais pas. C'est à vous de répondre. Mais je sais ceci, c'est qu'il n'y a pas de prix trop cher à payer pour pouvoir fuir le péché. Il n'y a pas de prix trop coûteux pour pouvoir s'éloigner du péché. Je pense que c'est un peu cette conception-là que Jésus développait quand il disait si ton œil est un problème pour toi, ben arrache-le. Évidemment, il désirait pas une communauté de disciples borgnes, mais il désirait des disciples consacrés. Donc, rien n'est assez coûteux, mais trop coûteux pour fuir le péché. Et pour chacun d'entre nous, ce sera peut-être différent. Mais il faudra faire le nécessaire, même si pour d'autres, ça paraît un peu ridicule. Je me souviens d'avoir lu le récit d'un homme, d'un commercial, qui était tout le temps en déplacement, chaque soir dans un hôtel différent, et il avait vraiment un gros problème avec les télévisions, les chaînes câblées, etc., etc. Et à la fin, ce chrétien en a eu marre de tomber, et alors ce qu'il faisait, il allait dans l'hôtel, et il demandait une chambre sans télé. Bon, alors on lui disait, mais monsieur, vous n'avez qu'à la débrancher. Il disait, vous me trouvez une chambre sans télé. Et c'est ridicule, mais il avait trouvé la riposte nécessaire pour sa situation personnelle. Ben, tant mieux pour lui. Hein, il avait réussi à faire front à cette tentation. Septièmement, maintenir une bonne communication pour ceux qui sont mariés donc avec sa femme ou avec son mari, une communication sincère, honnête, ouverte. On peut partager ses peines et ses tentations. Pour ceux qui ne sont pas mariés ou pas encore mariés, et qui peut-être lutteraient contre ce phénomène, et écoutez, à ce moment-là, il faut entamer une discussion avec un responsable spirituel, quelqu'un qu'on respecte, un pasteur, ou une autre personne, un responsable spirituel. Dans la même lignée, et ça c'est efficace, numéro 8, c'est demander l'appui d'un ami en qui on peut avoir entièrement confiance et lui être, le mot qui vous manque, c'est redevable. Et ça, c'est un phénomène qui est assez développé aux États-Unis. C'est moins connu en France, certainement pour plusieurs raisons, mais il consiste en fait à avoir un cercle d'amis, peut-être un autre interlocuteur, avec lequel on est extrêmement franc, en qui on a beaucoup de confiance, et on lui confie tout, et cette personne, on doit lui rendre des comptes. Bien sûr, il faut avoir le privilège de l'honnêteté, hein, bien sûr, mais envers cette personne, on rend des comptes, et on va lui dire, cette personne va nous interroger, va dire, mais où en es-tu au niveau de la pensée en ce moment? Où en es-tu à ce niveau-là? Et c'est très difficile, parce que on a l'impression de mettre son âme à nu. Mais je vous assure que ça marche. Parce que notre souci de respectabilité est parfois plus grand que notre désir, notre envie de regarder des choses pornographiques ou érotiques. C'est-à-dire que si quelqu'un va me demander, David, est-ce que tu as, dans la semaine, dans le mois, dans les 6 mois, regardé quelque chose à la télé que tu ne devais pas regarder, eh bien, comme je ne vais pas vouloir mentir, et comme je veux qu'il me respecte, je vais me garder davantage. Alors, je ne sais pas si ça vous paraît un peu bizarre, mais je vous assure que ça marche. Parce que nous voulons rester respectables aux yeux des autres. Et alors, dans ce souci-là, eh bien, quand on est redevable à une autre personne, nous allons faire encore plus attention. Je vous suggère aussi ce moyen-là, si vous vous sentez menacé. Je sais qu'aux États-Unis, il existe bon nombre de ce sont des groupes, hein, des hommes, à 2 ou 3, de petits groupes, qui se tiennent, je dirais, mutuellement, ils sont redevables mutuellement. Et ainsi, se sentent renforcés, encouragés dans leur démarche contre la tentation. Je pense que, au niveau du mariage, on doit toujours être redevable envers sa femme. Hein, ça. Pour ceux qui sont mariés, nos épouses ont le droit et le besoin de nous demander des comptes. Ils ont ce droit-là. Et puis dernièrement, ça c'est peut-être le plus important, il vient en queue, avant tout, maintenir et cimenter le rapport quotidien avec le Seigneur, le mot qui nous manque c'est rapport, avant tout maintenir et cimenter le rapport quotidien avec le Seigneur. On ne peut pas dire, bien sûr, tous les jours de notre vie, nous avons lu la Bible et nous avons prié, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas tomber, ce n'est pas vrai. Mais ce qui compte, ce qui est important, c'est de maintenir et de cimenter ce rapport avec le Seigneur. Ce sera le désir encore plus pressant de rendre gloire à Dieu. La peur d'être découvert, la peur de décevoir sa femme, ça va jouer son rôle, mais le plus important, ce qui aura le plus de portée, c'est quand le chrétien aura vraiment le désir de glorifier le Seigneur. Ça sera vraiment la portée la plus importante. Je me souviens avoir lu le récit anonyme d'un pasteur méthodiste qui raconte sa descente dans l'enfer de la pornographie. Mais vraiment, c'était affreux. Et tombe dans l'adultère, en plus, c'est vraiment terrible. Et au bout du compte, petit à petit, il est ressorti de cet enfer. Et au bout du compte, ce qui l'a forcé à se détourner, ce n'est pas l'amour de sa femme, qui pourtant était important, il aimait beaucoup sa femme, mais au bout du compte, ce qui l'a fait ressortir de ce trou, hein, c'est le désir de glorifier le Seigneur. Il en a eu assez de le bafouer. Et c'est ça qui l'a poussé vers la surface. C'est ça qui a fait pression chez cet homme pour qu'il abandonne tout son passé. Alors, c'est donc le meilleur moyen de nous préserver de l'échec, ce désir de plaire au Seigneur. Rapidement, parlons d'Internet, parce que c'est un peu la nouvelle menace, c'est la nouvelle donne. Il y avait 10-15 ans, on ne pouvait pas prévoir cela, mais nous avons maintenant accès à de multiples réseaux d'informations. Tant mieux, il y a beaucoup d'informations fort utiles, de bonnes informations. J'ai cru comprendre que, je crois que c'est en Chine, que nombre de chrétiens sont dépendants de l'enseignement par Internet. Hein, puisque la distance et la communication, la distance les sépare, la persécution aussi les sépare, et on fait part d'enseignement par Internet. Ils sont assez dépendants de cet enseignement chrétien par Internet. Donc l'Internet est un outil qui peut nous être fort utile, on est bien d'accord. Malheureusement, des milliers de sites pornographiques, il y a plus une, hein, ils sont donc accessibles à n'importe qui. Il suffit d'avoir un ordinateur, d'être connecté à Internet, et ils ont malheureusement énormément de popularité. Ce sont l'un des types de sites les plus visités, ce sont les sites pornographiques. Alors, quelques statistiques. Une étude de l'université de Stanford aux États-Unis. Je n'ai que cette statistique pour les États-Unis, mais il semblerait que plus de 200 000 personnes sont accros à la pornographie online, uniquement online. Hein. Plus de 200 000 personnes ne peuvent pas se passer de se connecter à des sites pornographiques. Et ça, ce n'est qu'aux États-Unis. Donc c'est un phénomène nouveau et extrêmement dévastateur. Alors les problèmes liés à ce phénomène, eh bien, c'est la disponibilité, hein, l'omniprésence de ces sites. C'est tout ça, il suffit de se connecter, de connaître une adresse, ou même d'utiliser quelques mots et de les entrer dans un moteur de recherche. Et on tombe dessus facilement. Et alors le problème, c'est que des personnes n'ayant aucun précédent dans ce domaine-là, tombent dans les mailles du filet, dans ce piège, et visite donc ces sites pornographiques à maintes reprises. Et ils font ça en toute intimité, en tout cas c'est ce qu'ils croient, ils deviennent accros. Et évidemment, les enfants, les adolescents sont aussi à risque. Alors, autre problème, c'est qu'un inconnu, au moyen d'une banque de données achetée ou voire même volée, comme suggérait Jérémy ce matin, peut très bien vous envoyer des images obscènes. Hein, vous ne les avez jamais cherchées, mais un beau jour, vous recevez vos emails. Ça ne m'est jamais arrivé, mais mon père me disait qu'il avait déjà reçu des...
De Russie.
Pardon ?
De Russie.
De Russie, d'accord. Alors, un beau jour, hop, et vous tombez là-dessus. C'est terrible. Alors, imaginez un chrétien... peut-être qu'il ne discerne pas bien, est un peu curieux, et puis alors il regarde cette image. Et puis il regarde l'autre qui vient la semaine d'après. Et ensuite il consulte un site, et etc. etc. C'est un engrenage terrible. Donc il y a ce problème-là. Alors vous savez aussi qu'il existe, par le biais d'Internet, de communiquer en direct ou en quasi direct avec des inconnus, ce qu'on appelle le chat, hein, c'est-à-dire d'entrer en discussion avec des inconnus, avec lequel on peut avoir des affinités. Alors là aussi, c'est très dangereux, pour plusieurs raisons. Premièrement, nous savons que des pédophiles repèrent leurs victimes potentielles par le moyen de ces chats. Ça, c'est prouvé. Mais cette nouvelle technologie met en péril aussi le chrétien qui cherche à communiquer avec une autre personne, avec une âme sœur. Et malheureusement, dans certains cas, je pense à un prof de mon prof de musique à l'Institut biblique qui s'est mis comme ça à discuter, hein, par email avec quelqu'un, je crois, en Californie, et puis les relations se sont développées, et au bout du compte il a quitté sa femme pour vivre avec cette personne contactée par Internet. donc le divorce, voilà. Je pense à un autre pasteur, un évangéliste itinérant, pour lequel j'avais vraiment beaucoup de respect, et lui aussi, il s'est mis comme ça par curiosité, hein, c'est peut-être au départ, je ne vais pas dire innocent, parce que quelque part on recherche une sensation, et il s'est mis à correspondre avec une femme, et puis voilà, il a quitté sa femme. Par chance, cet homme-là est revenu à sa famille, mais son ministère est terminé. C'est fini. Donc, je crois qu'il faut faire très attention. Alors, et puis, donc, D, c'est la consultation de sites pornographiques n'est en fait pas si anonyme que ça. Alors, on pense être en toute intimité derrière son bureau, personne ne peut jamais nous référer, alors que le chrétien n'irait jamais dans un bureau de tabac acheter de la pornographie par peur d'être vu par quelqu'un de son église ou une autre connaissance. Et là, il se dit, je suis en toute intimité. Et c'est faux, parce qu'en fait, il existe des moyens de le repérer. Hein, il y a une expression anglaise, les cookies, qui est en fait une petite base de données que le serveur installe dans votre ordinateur. Et qui permet un peu la prochaine fois que vous vous connectez à ce site, de savoir que vous êtes là. Et ensuite, ils peuvent vous envoyer des informations de leur côté. Le concept de cookies en lui-même n'est pas mauvais. Si vous commandez par exemple des livres online par le grand serveur, je crois que c'est Amazon.com, bon, vous commandez une fois, vous allez recevoir leur pub après. Bon, c'est les cookies qu'ils ont installés là dans votre disque. Mais toujours est-il que la pornographie online n'est pas si anonyme que ça. Et il y a toutes sortes de raquettes aussi, des arnaques liées à des sites d'abonnement. Alors, en particulier quand la personne donne sa carte de crédit, elle peut être, ce numéro peut être exploité par le site pornographique plus tard. Et je lisais que certains, il y a des sites qui sont gérés par des femmes. Et vous savez ce qu'elles disent? Elles disent, ben voilà, l'homme nous exploite. Nous, ces hommes exploitent notre corps, et bien nous, on va les exploiter. Alors, on a le numéro de ta carte de crédit, mon gars. Et bien voilà, hop. Et toutes sortes d'effractions dans ce domaine-là. Autre raquette, et ça c'est assez récent, et c'est grave, c'est que des noms de sites abandonnés sont récupérés par des sites pornographiques. Donc des noms de sites abandonnés sont récupérés par des sites pornographiques qui vont diffuser des images mais ne vont pas changer le nom du site. Imaginez le problème, imaginez, et d'ailleurs, c'est arrivé, des sites à teneur, auparavant donc religieuse. Et vous allez vous connecter à ce site d'une église ou d'un groupe chrétien, et qu'est-ce que vous allez voir? Des images pornographiques. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que le propriétaire de l'ancien nom, du départ, est obligé de débourser de fortes sommes, c'est un racket. Hein, les gérants du site pornographique disent, écoutez, on veut bien vous céder ce nom que vous aviez laissé, on veut bien vous le céder, mais ça va vous coûter très cher. Vraiment toutes sortes de raquettes dans ce domaine-là. Alors, pour terminer, je n'ai pas de solution miracle, mais enfin bon, il est évident que si vous possédez un ordinateur, si vous possédez Internet, vous devez décider de ne jamais visiter de site à caractère immoral. Si vous envoyez un email et que ça paraît deux, vous le videz. C'est évident. Il serait bon, c'est vrai, d'utiliser un système de filtrage. En particulier pour un. Moi je recommande cela, d'avoir un système de filtrage d'Internet qui fait que des sites douteux ou pornographiques et autres ne puissent pas être ouvertes sur votre disque dur. Je crois que c'est une bonne chose. Quand vous achetez un ordinateur, là, on en a acheté en 95 pourtant, eh bien il y avait déjà à cette époque-là un programme de filtration de ce genre de site. Et puis, écoutez, si c'est un problème, parce qu'il y a des gens qui passent des heures et des heures là-dessus, mais encore une fois, Internet c'est un outil, mais bon, peut-être qu'il faut rendre compte à sa femme, à son mari, à un ami, etc., de son usage Internet. Je pense à une église qui nous soutient aux États-Unis. Il faut un mot de passe pour aller sur Internet, dans le bureau, il y a 5 pasteurs dans cette grande église, mais la seule personne qui connaît le mot de passe, c'est la secrétaire. Alors le pasteur, il ne peut pas, lui, comme ça, consulter des sites comme ça à l'improviste. Il faut que la secrétaire soit là, que d'autres personnes soient là, et c'est au vu
et devant tout le monde. Bon, il se protège, hein, il se protège tout simplement. Et puis, je dirais tout simplement ceci, veillez attentivement à son implication dans le chat. Voilà, parce que ça peut générer vraiment des problèmes. Je ne sais pas si certains ont fait ces expériences-là, mais attention, parce qu'on peut créer des problèmes. Le mot de la fin, c'est dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 21. Vraiment, ce verset-là m'encourage, c'est vraiment un superbe enseignement. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à tout bonheur. 4 choses. Si on se détourne de ces choses, Dieu va nous utiliser. Et on sera un vase d'honneur. On lui sera sanctifié. On sera utile. Peut-être que ce matin, vous ne considérez pas comme très utile au maître. Eh bien, c'est faux. C'est faux. Quand on se conserve pur, on est utile au maître. Et propre à toute bonne œuvre. Propre à toute bonne œuvre. Voilà ce qui vous attend si vous vous conservez pur. Alors, si vous avez des questions, on pourra en parler tout à l'heure. Avec d'autres personnes, nous allons prier et terminer cette partie de la réunion. Seigneur.